France Info.
La Bretagne avec du vent, ce vent de sud-sud-ouest qui va se renforcer. Et sur le reste de la moitié ouest, y compris l'Île-de-France, les nuages resteront nombreux ce matin. Mais quelques éclaircies devraient pouvoir se développer cet après-midi. À l'est, en revanche, vous gardez le soleil avec, toujours, il faut composer avec ses brouillards.
Oui, quand même, jamais. La bonne nouvelle n'est
jamais bonne.
Bon, merci beaucoup Christine Peignard. On vous retrouve dans 10 minutes. Et merci à tous d'écouter France Info en ce 20 janvier. Il est 5 heures. Et à la une, l'enquête qui se poursuit en Espagne pour tenter de comprendre les causes de cet accident de train qui a coûté la vie à 40 personnes selon le dernier bilan. Dans l'actualité également, nous en parlions, le 49-3 qui sera enclenché aujourd'hui à l'Assemblée par le Premier ministre pour faire adopter son budget. Le président américain attendu au Forum économique de Davos, Emmanuel Macron également, et le Groenland est évidemment dans tous les esprits. Et puis des restrictions d'eau enfin levées dans les Pyrénées-Orientales après 2 ans de sécheresse. Le deuil national a commencé en Espagne. Il va durer 3 jours après cet incident entre 2 trains à grande vitesse en Andalousie qui a coûté la vie à 40 personnes. 2 trains qui se sont percutés dans la région de Cordoue. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez promet la transparence sur les causes de ce drame. Une commission d'enquête sur les accidents ferroviaires a bien commencé son travail. Mais pour l'heure, Étienne Monin, rien ne permet d'expliquer le déraillement et le choc.
Assez rapidement, 2 éléments ont été écartés par le président de la Société espagnole des chemins de fer. Il n'y a pas eu d'excès de vitesse sur ce tronçon et sans doute pas d'erreur humaine. Les experts estiment donc qu'il faut se pencher sur l'état des roues des 3 derniers wagons qui ont déraillé et sur l'infrastructure. Les enquêteurs ont photographié un morceau de rail détaché à l'endroit de l'accident, mais le ministre espagnol des Transports indique qu'il s'agit d'établir maintenant si ce rail est à l'origine du drame ou s'il a été au contraire dégradé par l'accident. Ce qui est sûr, c'est que ce tronçon de voie interroge. La ligne Madrid-Séville est la plus ancienne du réseau. L'opérateur avait injecté 700 millions d'euros pour moderniser et réparer les infrastructures. Le remplacement des aiguillages s'était terminé en mai dernier. Mais d'après la presse espagnole, au moins 7 incidents ont été signalés l'an passé, y compris au mois de décembre dans le secteur de l'accident, pour des problèmes notamment de signalisation et de caténaire.
Et les précisions d'Étienne Monin. Il est 5h02, il avait promis de ne pas l'utiliser, mais il le fera aujourd'hui. Sébastien Lecornu va donc bien recourir au 49-3 à partir d'aujourd'hui. Cet outil constitutionnel qui peut être utile pour faire donc adopter le budget sans vote face à l'enlisement des débats au Parlement. En échange, évidemment, le Premier ministre s'expose et expose son gouvernement à des motions de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National, Paul Barcelone.
C'est avec le cœur lourd et l'air grave que Sébastien Lecornu renonce à sa promesse originelle de ne pas passer en force.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de loi de finances.
Comme pour mieux signifier que lui prend donc ses responsabilités quand d'autres n'en sont pas capables. Face aux motions de censure du RN et de la France Insoumise, et malgré la colère du patronat, le Premier ministre vante un budget sérieux qui ne fait pas de folie fiscale. Il reconduit la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, promet une hausse de la prime d'activité sans accord secret avec le Parti Socialiste.
Non, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de discussion et de réunions dans les arrière-boutiques avec qui que ce soit. Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser, et donc je pense qu'on va arrêter de se donner en spectacle devant le monde entier pendant de nombreuses semaines et nous permettre de donner un budget à la nation.
Justement, quand Sébastien Lecornu va engager la responsabilité de son gouvernement tout à l'heure, Emmanuel Macron sera, lui, au Forum économique de Davos, en Suisse, et pourra se targuer d'avoir bientôt un budget en bonne et due forme.
Merci beaucoup Paul Barcelone, Davos et son forum économique qui en font donc la capitale économique du monde en ce moment. Vous le disiez, Paul Emmanuel Macron est sur place aujourd'hui et demain, ce sera au tour de Donald Trump de se rendre dans la station de ski suisse qui accueille l'événement et ses menaces contre le Groenland bouleversent évidemment tous les participants, Frédéric Saïs.
Devant une centaine de grands patrons venus du monde entier, Emmanuel Macron va tenter d'insuffler de l'optimisme
optimisme. Question-réponse sur l'attractivité de la France. Mais hors caméra, les dirigeants européens vont multiplier les apartés sur le Groenland et l'optimisme va laisser la place à l'inquiétude. Le moment est vertigineux, confie un diplomate français. Comment faire face aux menaces de Donald Trump sans mettre en danger l'Alliance Atlantique? Instaurer le rapport de force, comme le propose la France, ou bien temporiser, comme le recommande l'Italie? En privé, les Européens tentent de se mettre d'accord en essayant de ne pas se contredire en public. Autre question à Davos, faut-il rencontrer ou pas Donald Trump? Pas prévu à ce stade pour Emmanuel Macron. Hésitation chez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Rencontrer Trump, ça veut dire négocier. Or, sur le Groenland, il n'y a rien à négocier, plaide un haut fonctionnaire européen. La première ministre danoise, elle, a annulé sa venue à Davos, une manière d'afficher sa fermeté vis-à-vis des États-Unis. Nous voulons coopérer, dit-elle, et ce n'est pas nous qui cherchons le conflit.
Frédéric Saïs de la rédaction internationale de France Info. Une information judiciaire est désormais ouverte après la mort d'Elassem Diarra. Nous vous avons parlé sur France Info de cet homme de 35 ans qui est mort la semaine dernière au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Après avoir été interpellé, il était, selon les forces de l'ordre, en train de rouler un joint. En clair, donc désormais, un juge d'instruction est saisi, Margot Steve, pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
Oui, la famille de ce jeune Mauritanien le réclamait, persuadé qu'il est mort à cause de violences policières. Dans une vidéo filmée par un riverain, on voit un agent l'immobiliser au sol et lui asséner deux violents coups de poing. D'après l'avocat de la famille, on entend Elassem Diarra crier « Vous m'étranglez ». Mais d'après les premières conclusions de l'autopsie, impossible à ce stade de savoir si c'est cela qui a pu entraîner le décès. Le corps présente une plaie profonde au niveau du front, mais aucune trace de lutte ou de défense. Aucun indice clair non plus sur une éventuelle strangulation. D'après le médecin légiste, le décès est dû à une défaillance cardiaque sans que l'on puisse pour l'instant en connaître la cause. Des examens complémentaires ont été ordonnés. En revanche, les caméras piétons des policiers ne pourront pas être exploitées. Ils assurent qu'elles étaient déchargées au moment de l'interpellation.
Et les précisions de Margot Steve du service police-justice de France Info. Malgré la signature officielle samedi dernier du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, des agriculteurs européens vont de nouveau se mobiliser, manifestation aujourd'hui à Strasbourg. Aux alentours de 600 à 700 tracteurs sont espérés aux abords du Parlement européen par la FNSEA, qui est à l'origine en France de cet appel à la mobilisation aux côtés des jeunes agriculteurs. Les données personnelles de 100 000 jeunes dérobées en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est le site de la carte Avantage Jeunes de la région, destinée aux moins de 30 ans, qui a été piratée il y a une dizaine de jours. Les noms, numéros de téléphone, adresses électroniques et postales ont été subtilisés. C'est la fin du calvaire dans les Pyrénées-Orientales. Après 3 ans d'une sécheresse historique, le préfet a signé hier l'arrêté qui allège enfin une grande partie des restrictions. Les cours d'eau sont bien remplis après 2 épisodes de pluie intense, l'un pendant les fêtes et l'autre ces derniers jours. Christine Peña nous en parlait. Et donc l'allègement de ces restrictions, c'est une très très bonne nouvelle, en particulier pour les agriculteurs. Denis Bassery est viticulteur à Rivesaltes et c'est le président de la SAFER, l'organisme qui gère le foncier agricole dans les Pyrénées-Orientales.
C'est un gros soulagement. Alors, les nappes sont encore, dans certains endroits, en état de crise. Mais si ça continue comme ça, ça ne pourra que s'améliorer. Je suis comme Saint-Pierre. Moi, je crois que ce que je vois, quand on en sort sorti complètement, là, à ce moment-là, ce sera encore autre chose. Pour nous, ça représente, on va dire, allez, une libération. Une libération de l'esprit, parce que quand même, quand on est dans ces situations, on dormait pas tranquille tous les jours. D'ailleurs, on dormait pas tranquille du tout, quoi. On a vécu des situations exceptionnelles. On sait qu'on va les revivre. Ce qu'il faut maintenant, c'est que, avec le temps de répit qu'on a, peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi, il faut qu'on mette rapidement en place des solutions durables.
Denis Bassery, le président de la SAFER dans les Pyrénées-Orientales. Et puis encore un exploit pour Wemby, Victor Wembanyama, le basketteur français sélectionné à nouveau pour le All-Star Game cette année. Ce sera le 15 février prochain, une soirée de gala qui rassemble les meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Et c'est exceptionnel, il sera titulaire et non pas remplaçant comme l'an dernier. Pour bien comprendre à quel point c'est fort, c'est que même Tony Parker n'a jamais eu droit à cet honneur. Victor Wembanyama, donc le premier Français titulaire pour le All-Star Game de basket aux États-Unis. Christine Peña, c'est l'heure de votre météo à 5h09 et c'est le retour des gelées sur le Nord-Est.
Mais oui, ça nous réveille. Hein. Effectivement, le froid, depuis hier, hein, on a ce retour de gelée. Alors il fait -1 à Nancy, c'est assez contrasté avec le reste du pays finalement, avec 7 à Paris. Paris, on est largement en positif. 8 du côté de Rouen, comme à Toulouse, comme à Nîmes. Et le plus doux, devinez où ?
Est-ce que ça serait pas chez moi ?
Ah bah oui, c'est
Est-ce
à Toulon.
Est-ce que ce serait pas à Toulon ?
Et à Nice,
à Toutou,
également.
À Lolon.
14 degrés à Toutou.
C'est à Toutou, à Lolon,
bah ah oui,
vous
c'est
bien
vrai,
Bayonne.
On pourrait le faire. Mais ça marche moins bien.
Ça marche moins bien. Bon,
14 degrés ce matin à Toulon. Hein.
Eh bien, très bien. Je pars tout de suite. Merci beaucoup, Christine Peña. 5h09.
Du 28 janvier au 1er février 2026, France Musique, partenaire de la Folle Journée de Nantes. Les fleuves, du Danube à la Moldau, en passant par le Rhin, le Mississippi, la Volga ou encore la Loire. Ces grands fleuves qui irriguent les continents ont joué un rôle central dans le développement musical des plus grands compositeurs. Rendez-vous du 30 janvier au 1er février sur France Musique pour vivre en direct la Folle Journée de Nantes. France Musique, une radio de Radio France.
Au programme de France Info, d'ici 5h30, la France est-elle toujours attirante pour les investisseurs? Réponse au Forum économique de Davos qui vient de s'ouvrir, nous l'évoquions il y a un instant. Nous serons à Davos dans 5 minutes et nous prendrons aussi la direction de Lyon pour les municipales qui approchent avec l'ex-président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui est bien parti pour s'emparer de la mairie. Parlons d'abord budget.
France Info, 5h-6h. William DeCosta.
C'est peut-être bientôt la fin du feuilleton qui commence à s'éterniser, ce feuilleton budgétaire. Le Premier ministre a donc annoncé hier qu'il enclenchera l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote, le texte du budget de l'État, sans vote, à condition évidemment qu'il échappe à des motions de censure qui vont être déposées par les Insoumis d'une part de l'hémicycle et le Rassemblement National de l'autre côté. Il peut échapper à ces motions si les socialistes ne les votent pas. D'ailleurs, ils ont été visiblement séduits par les dernières concessions du Premier ministre qui avait promis aux socialistes au départ de ne pas utiliser le 49.3 pour faire adopter ce budget, mais il y avait urgence de le faire adopter selon le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur France Info, David Amiel.
Il y a urgence parce que chacun voit que la France doit défendre sa souveraineté, la souveraineté européenne dans un monde dangereux. On ne peut pas défendre notre souveraineté les mains liées. Or, ne pas avoir de budget, c'est avoir les mains liées. Parce que c'est être incapable d'investir pour nos armées dans un monde qui se réarme chaque jour. C'est être incapable d'investir dans l'innovation, dans l'industrie, dans un monde aussi où on le voit bien, la Chine par exemple bouleverse complètement l'économie mondiale. Et puis on voit aussi les attentes des agriculteurs, les attentes du monde du logement, une crise immobilière importante, les attentes des entreprises qui ont besoin de savoir dans quel environnement fiscal et budgétaire ils pourront avancer, les attentes des ménages, par exemple, qui ont acheté un appartement, une maison, ou qui espèrent le faire et qui ont besoin de savoir s'ils auront droit à des aides à la rénovation ou pas. Il y avait maintenant urgence à pouvoir se doter d'un budget.
David Amiel, il y a beaucoup d'inconnus encore dans ce budget. On a beaucoup moins d'idées sur les recettes. Ça va passer évidemment par des économies. Est-ce que le ministère dont vous avez la charge, la fonction publique, vous vous occupez aussi de la réforme de l'État, est-ce que vous allez être vous concerné directement par les économies qu'il va falloir faire pour maintenir l'objectif d'un déficit à 5% du PIB ?
C'est d'abord très important de le rappeler, l'objectif de déficit, il est maintenu à 5%. C'est donc une nouvelle étape dans la réduction du déficit public. Et oui, bien sûr, ça va nécessiter des économies importantes au sein de l'État. Par exemple, sur les achats publics, on vise près d'1 milliard d'euros d'économies dès cette année 2026. On peut le faire en étant beaucoup plus efficace. On a engagé avec Amélie de Montchalin des réformes en ce sens. Et c'est ainsi à tous les étages de l'action publique qu'il y aura des économies importantes pour pouvoir tenir cet objectif de déficit.
C'est quoi les achats publics ?
Les achats publics, ce sont les achats qui sont faits par l'État, par les différentes administrations pour acheter des fournitures, du matériel, des services. Et il y a encore beaucoup trop de gaspillage et on va remettre de l'ordre. Certains d'entre vous ont peut-être vu ces reportages où on voit l'État qui achète une machine à café 3 fois plus cher que ce qu'on trouve au supermarché d'à côté. Et bien tout ça, ce sera fini. Chacun des ministres, dans chacun de ces ministères, portera ces réformes d'efficacité qui permettront de tenir le déficit à 5% du PIB sans augmenter les impôts sur les Français qui travaillent.
Et la fonction publique ?
En ce qui concerne la fonction publique, Il y a un effort important qui est fait depuis plusieurs années en matière de rémunération, mais il y a aussi des domaines qui sont prioritaires pour l'action publique. Je pense en particulier à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et la copie qui est proposée permettra d'avoir 2000 accompagnants supplémentaires pour les élèves en situation de handicap.
Quelles sont les autres pistes pour soit faire des économies, soit avoir des recettes supplémentaires ? S'il n'y a pas d'augmentation, d'après ce qu'on a compris, d'impôts pour les ménages en 2026 ?
Je vous disais, stabilité fiscale entre 2025 et 2026, c'est extrêmement important. On aurait souhaité pouvoir même baisser les impôts, mais il y a une stabilité fiscale, c'est le fruit du compromis parlementaire, et c'est très important. Très important pour les entreprises, c'est très important pour les ménages, et c'est ce qui est proposé dans le budget qui sera soumis à 49.3. Et oui, ça veut dire que du point de vue de l'État, on aura des économies qui seront absolument historiques. Jamais l'État n'aura fait autant d'efforts depuis 25 ans, et ce sera le cas dans toutes les politiques publiques. Il y a quelques politiques qui sont véritablement prioritaire. Évidemment, on en parlait, les armées, la justice, l'intérieur, la sécurité du quotidien, des investissements pour l'enseignement supérieur et la recherche, je pourrais en citer quelques autres, mais pour le reste, ce sera des économies historiques.
David Amiel, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui répondait sur France Info aux questions de Julien Langlais. Nous sommes en Suisse désormais à Davos pour le Forum économique mondial. C'est le rendez-vous de tous les grands acteurs, le gratin de l'économie de la planète et le rendez-vous aussi des chefs d'État. Donald Trump, l'américain, est attendu demain. Emmanuel Macron, lui, prononcera aujourd'hui un discours à la tribune à 14h pour faire la promotion de la France, convaincre les investisseurs étrangers de placer leur argent chez nous, dans un pays, on l'évoquait à l'instant, plutôt instable politiquement, budgétairement. Alors qu'en pensent les participants de ce forum de Davos ? Vous leur avez tendu votre micro France Info, Isabelle Raymond.
Dans les couloirs feutrés du centre de congrès de Davos, tout le monde connaît le nom du président français.
Emmanuel Macron.
Et quand on demande à ce patron américain de la tech ce qu'il en pense,
je pense qu'il a fait un très bon boulot sur la scène internationale et qu'il a un job difficile chez lui en ce moment. C'est compliqué aujourd'hui de se baser uniquement sur la situation d'un pays pour décider s'il faut y investir ou pas. La France a des problèmes, mais c'est aussi le cas du Royaume-Uni et des États-Unis. C'est le cas de beaucoup de pays à travers le monde.
Les atouts de la France sont nombreux, renchérit cet investisseur émirati qui vient chaque année à Davos faire du business.
Les investissements en France ont toujours été assez stables. Il y a beaucoup d'esprit créatif chez vous. C'est une grande nation pour l'innovation.
L'innovation, justement, c'est ce que met en avant Emmanuel Macron. Il se déplace avec une vingtaine d'entrepreneurs tricolores, une sorte de vitrine de ce qui se fait de mieux en France, du fabricant de batteries pour les voitures électriques Verkor à Candela, dans le Cantique, en passant par Ledger pour la crypto-monnaie. Mais ce n'est pas suffisant, selon André Lopez-Écruc-Pietri, casquette verte vissée sur la tête, on peut y lire.
Make Europe Great Again. Donc évidemment, ça joue sur Make America Great Again.
Et pour ce lobbyiste français dans les innovations de rupture, l'Europe doit se donner les moyens de rester dans la compétition face à la Chine et aux États-Unis.
Il faut aussi avoir le courage de dire ces grands forums d'investissement où on vend la France sans rien changer, ça ne sert à rien. Si on continue à ne pas comprendre que en fait l'élément clé dans le monde d'aujourd'hui, c'est la vitesse et l'agilité. Eh bien, on va être de plus en plus en train de faire exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On attend béat que le président Trump nous donne la bonne parole. Non, ce qu'il faut, c'est repartir à l'offensive. Où sont les grands programmes technologiques sur comment est-ce qu'on fait de l'IA qui consomme 1000 fois moins d'énergie ? Comment est-ce qu'on trouve des alternatives aux terres rares où aujourd'hui la Chine est en train de nous squeezer ? Il n'y a pas d'autre mot. Non, on est en fait très défensif. On vend l'existant. Non, ce qu'il faut, c'est créer l'agenda de demain, se mettre dans l'ordre de bataille. Et en plus, c'est un projet politique incroyable pour nos populations.
En attendant, Emmanuel Macron devrait profiter de son passage au Forum économique de Davos pour annoncer la création à Paris d'un centre de recherche en intelligence artificielle d'ici la fin de l'année.
France Info, reportage à Davos, signé Isabelle Raymond. Quand l'ancien patron du club de foot veut devenir maire, nous sommes à Lyon dans un instant où Jean-Michel Aulas pourrait bien s'emparer du fauteuil de l'écologiste Grégory Doucet.
Info 100%. 5h-6h.
D'abord l'info en une minute, c'est avec vous Maureen Suignard, bonjour.
Bonjour à tous.
Et à la une, le Premier ministre qui va actionner le 49-3 cet après-midi.
Pour la partie recette du budget 2026, l'article de la Constitution permet d'adopter le texte sans vote du Parlement. Mais deux motions de censure sont déposées par le Rassemblement National et par la France Insoumise. Pour le MEDEF, le principal syndicat patronal, l'État se renie en reconduisant la surtaxe sur les entreprises. Trois jours de deuil débutent en Espagne après l'accident ferroviaire qui a fait au moins 40 morts en Andalousie. Il y a encore 41 personnes hospitalisées, 12 sont en soins intensifs. La tension ne retombe pas entre les Américains et les Européens. Sur le Groenland, Donald Trump veut toujours imposer de nouvelles taxes à ceux qui s'opposeraient à la prise du Groenland. Dans un message adressé au Premier ministre norvégien, le président américain affirme qu'il ne se sent plus tenu de penser uniquement à la paix, puisqu'il n'a pas eu le prix Nobel. Rendez-vous à 21h ce soir pour l'avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions de football. Le PSG joue face au Sporting Portugal et espère faire un pas vers une qualification directe en 8e de finale. Par ailleurs, le Real Madrid reçoit Monaco.
France Info, municipal 2026.
Vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales car nous sommes appelés aux urnes les 15 et 22 mars prochains pour les municipales. Et ce matin, France Info est dans la troisième ville du pays, Lyon, avec une bataille à suivre car le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, soutenu par le PS et par le PC, est sérieusement menacé par l'homme d'affaires Jean-Michel Aulas, l'ex-président de l'Olympique lyonnais. Une course à la mairie où l'on retrouve aussi de nombreux autres candidature, Mathilde Imberti, qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite.
On vient le voir à propos des prochaines élections municipales.
Ne délaissez personne ni aucun quartier. Grégory Doucet, l'actuel maire, candidat Union de la gauche et écologiste, se plie au porte-à-porte.
J'ai bossé 20 ans dans l'humanitaire auparavant. J'ai décidé de consacrer ma vie au service des autres. Donc quand j'ai été maire, là, j'ai été habité des mêmes ambitions. Moi, ma priorité, c'est de partir des préoccupations des gens. Sur ce mandat, on a commencé la transformation de la ville, l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques, mais pas que. On a aussi investi considérablement sur le social, sur l'éducation, avec tout ce qu'on a pu faire dans les écoles. Sur ce mandat, on a fait par exemple l'encadrement des loyers, mais là on met en place une garantie universelle municipale pour les gens qui ont besoin de présenter un garant, une assurance habitation municipale. Et l'exercice du porte-à-porte, c'est à la fois on parle bilan et à la fois en perspective.
Candidate à la mairie de Lyon.
C'est jeune, c'est bien. Félicitations.
Merci, c'est gentil.
Du terrain aussi, ici au marché, pour la députée Anaïs Belloissa-Cherifi, 30 ans, la France insoumise.
Pour faire en sorte d'avoir un programme au plus proche de la réalité et des aspirations populaires. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question du logement, à l'heure où certains candidats veulent clairement, eux, ne plus mettre l'encadrement des loyers. Et moi, maire de Lyon, il n'y a aucune spéculation immobilière qui sera prédominante. Il y a aussi la question de la santé. On va ouvrir des centres de santé municipaux dans lesquels il y aura pas de dépassement d'honoraires. Il y a aussi la question de l'alimentation à l'école pour les enfants d'avoir un petit déjeuner gratuit et la cantine gratuite.
Tout à fait à l'autre bout du spectre, Alexandre Dupalais, candidat ciotiste et Rassemblement National.
La seule droite, puisqu'on voit que M. Aulas va de plus en plus vers la gauche et maintenant il s'accuse mutuellement avec M. Doucet de zoler les mesures de gratuité, de tout gratuit, de cantine gratuite. Nous défendrons toujours le sérieux budgétaire et économique, sans méga travaux, sans méga tunnels, sans méga forêts. Ça, c'est des méga impôts.
Classé trop à gauche ou trop à droite selon qui parle, par quoi est guidé Jean-Michel Aulas, 76 ans, ancien patron de l'OL.
À partir du moment où certains me trouvent trop à droite et d'autres trop à gauche, ça veut dire que je suis avec un programme de croissance libérale qui permet de trouver les ressources dont on a besoin pour avoir une véritable politique sociale. Il faut aussi, en matière de sécurité, bien apporter de la sécurité aux Lyonnais qui n'en peuvent plus, de vivre dans la peur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de problème de notoriété, mais il faut aussi établir un programme. On essaye d'apporter des solutions qui sont des solutions de bon sens. Mon parti à moi, c'est Lyon.
Et ce sont bien tous les partis du centre et de la droite, de la Macronie aux Républicains de Laurent Wauquiez, qui portent sa campagne. Avec lui, l'espoir de reconquérir Lyon, perdu par la droite après Raymond Barre en 2001.
France Info reportage a signé Mathilde Imberti et Christophe Vincent. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un chanteur qui fait son grand retour après 15 ans d'absence.
Bonjour Camaro.
Bonjour.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivant, ton rap, baby, ta soul, baby.
C'est votre titre Femme Like You, sorti en 2004, qui vous a propulsé sur le devant de la scène et qui n'a cessé de nous accompagner. La preuve, 21 ans plus tard, dès qu'on cite votre nom, beaucoup se mettent à fredonner les paroles de votre tube comme s'il était sorti récemment. Une belle victoire pour ce petit garçon que vous étiez et qui a grandi à Beyrouth avec des rêves et chansons plein la tête. Vous êtes un touche-à-tout, tour à tour auteur, compositeur, interprète, producteur, manager, directeur artistique, conférencier, philanthrope aussi. Vous avez vendu d'ores et déjà plus de 5,5 millions d'albums dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes de retour après 15 ans d'absence, remarqué, avec un nouvel album intitulé Place de Lauréane. Cet album Camaro semble occuper une place assez particulière, presque imaginaire d'ailleurs, c'est comme ça que vous le définissez, entre la nostalgie d'hier et le présent, un lieu de rassemblement, semble-t-il, où les sons d'hier rencontrent les machines d'aujourd'hui. C'est un endroit où le temps oublie d'avancer, c'est ça ?
Ouais, absolument, c'est une espèce de monde imaginaire où on s'est plongé aussi bien avec mes copains de compo que mes copains de réal, enfin c'est vraiment un projet de potes. Comme j'ai souvent dit, j'ai cette chance absolue, ce privilège de pouvoir faire de la musique un peu comme je l'entends aujourd'hui, sans nécessairement les velléités du système et de rentrer dans les dictats. Donc je m'amuse et je me suis dit que de mieux que de se plonger dans inventer une place qui n'existe sur aucune carte et s'imaginer ces carrefours, ces intersections entre avant et aujourd'hui, entre la chanson française et la musique électronique, entre les influences hip-hop et les guitares électriques. Et donc on s'est amusé à créer ce monde imaginaire que effectivement tout le monde ne comprend pas tout de suite. Mais encore une fois, c'est ce luxe que j'ai de pouvoir prendre le temps d'installer des projets sur la longueur et de les faire d'abord pour moi, de manière peut-être un peu égoïste. Et pour ceux qui me suivent et qui, autre que Femme Like You ou mon premier album La Good Life, n'ont cessé de suivre mes péripéties et mes aventures ces 15 dernières années.
C'est lourd d'avoir un titre qui a aussi bien fonctionné que Femme Like You ?
Non, c'est pas du tout lourd à porter. Au contraire, ça reste un privilège et ça reste un pur plaisir. Donc c'est comme un trait d'union qui me permet de manière... Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça ne l'est pas, mais de garder cette espèce de contact absolu avec le public et qui me permet justement de me dire, bah, puisqu'on a ça, bah, je vous propose ça aussi et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas, c'est très bien si ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Donc, au contraire, je pense que ça me permet de proposer d'autres choses, d'être tout le temps dans ce partage presque constant depuis 20 ans. Quoi. C'est formidable.
On découvre un nouvel homme à travers cet album. Camaro, on va pas se mentir. Vous avez aussi eu besoin de vous protéger de cette notoriété qui a été juste extraordinaire. Là, on découvre effectivement la fragilité. Vous n'aviez pas appris à vivre comme ça avec vous. C'est difficile de lâcher prise.
Ça devient de moins en moins difficile. Je pense qu'à partir du moment où on est sincère dans sa démarche, c'est tout aussi facile d'apprécier tout ce qui nous arrive que de réaliser aussi qu'il est peut-être temps de se rapprocher un peu plus de ses valeurs, de se protéger un peu plus. C'est pas que du poétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis aussi passionné des coulisses de nos métiers. J'ai fait beaucoup de choses
en production,
en production, en management, en institutionnel. Et je trouvais que j'avais presque un choix à faire. Fallait complètement arrêter ça pour continuer à devenir un peu une espèce de mascotte artistique qui me dérangeait un peu et qui venait brimer ma liberté. Donc oui, c'est facile à partir du moment où on est sincère dans notre démarche de se dire c'est plus réellement les raisons pour lesquelles je suis venu, donc je vais repartir.
Il y a un mot qui a toujours été banni de votre vocabulaire, c'est le mot colère.
Oui.
Vous fuyez la colère, vous l'évitez.
J'ai appris à la fuir. Elle m'a coûté très cher dans mes années d'adolescence. Toutes les séquelles de mon enfance sont arrivées un peu plus tard. Et j'ai fait des bêtises et j'aurais pu avoir un avenir bien différent de celui que j'ai pu connaître si j'avais pas réussi à... D'abord, si j'avais pas croisé la route de certaines personnes qui m'ont aidé. J'ai une relation particulière avec la colère parce que je suis un sanguin, je suis quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans mon enfance. Donc j'ai pas réussi à l'adolescence à le gérer, mais j'ai réussi à prendre conscience en revanche que ça pouvait me coûter très très cher et que ça pouvait m'empêcher de vivre mes rêves. Et donc j'ai appris à la maîtriser et maintenant je suis devenu à l'opposé.
Il représente quoi cet album pour vous ? Alors ce retour au bout de 15 ans d'absence
C'est plutôt comme un nouveau chapitre que j'ai tenu à faire quand même sous mon nom parce que je voulais pas que les gens se disent « Ah tiens, il assume pas ce qu'il a fait avant ». Ça me prouve que j'ai encore cette liberté de faire de la création aujourd'hui, de la faire différemment et d'avoir des gens comme vous qui l'ont écouté, qui l'ont remarqué et qui en parlent, et ça me suffit. Je suis dans un très bel espace aujourd'hui et je suis hyper reconnaissant.
Et puis c'est un beau prétexte pour remonter sur scène.
C'est surtout ça. Et surtout cet album est un absolu avec les machines, les sonorités électroniques, cette voix un peu plus posée, un peu plus crooner. C'est un bonheur de le faire sur scène, donc j'ai hâte.
On y entend l'écho de Tame Impala, de MGMT, Gavinsky aussi, Fred Again. Enfin bref, c'est un nouveau Camaro. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
L'album
s'appelle La Place de Lauréane. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Il y a des soirées qui nous enivrent et des sujets qui se déchaînent. Et plus ça boit, plus ça dérive.
Camaro de retour et dans le monde d'Élodie à réécouter sur l'application Radio France. La météo.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Dissuasion, détection, vérification et mise en fuite. Pour une protection complète jour et nuit. Devis gratuit sur Vérissure.fr.
Christine Peña, le défilé des perturbations se poursuit.
Mais oui, on a toujours Harry en Méditerranée qui provoque ses remontées pluvieuses sur l'est de la Corse, notamment sur le Roussillon jusqu'à l'Aveyron d'ailleurs ce matin. Et puis nous avons une nouvelle perturbation qui va aborder la Bretagne et les pluies vont tomber de façon soutenue d'ailleurs assez rapidement dès ce matin, cet après-midi avec pas mal de vent qui devrait se renforcer. Nous avons cette perturbation qui nous concernera sur pas mal de régions demain. Elle traversera le pays. Jeudi, on la retrouvera de nouveau en Méditerranée. Vendredi, on a un bon coup de vent qui est prévu vers la côte atlantique jusqu'à l'entrée de la Manche. Faudra surveiller quand même. Alors, au niveau de la vigilance, ça va bouger. À 6h, la Haute-Corse pourrait sortir de vigilance. On verra pour le Roussillon. On a pas mal de neige qui est tombée sur le Canigou. Pratiquement 2 mètres de neige fraîche depuis dimanche et les pluies vont quand même progressivement réduire dans la journée. On a de belles éclaircies qui arriveront à se développer. De façon générale, l'après-midi sera quand même un peu plus agréable, sauf en Bretagne donc, que ce matin.
Merci beaucoup Christine Peña. Au menu de France Info d'ici 6h, quand le feuilleton interminable du budget va-t-il arriver à son terme? Le Premier ministre a annoncé qu'il comptait employer le 49.3, ce sera à partir d'aujourd'hui. Nous allons y revenir dans 5 minutes. Et puis c'était le 20 janvier 2020. 25, il y a un an tout pile, Donald Trump était de retour à la présidence des États-Unis. Grand dossier dans un quart d'heure car le monde a beaucoup changé depuis. On entendra ses électeurs pour savoir s'ils sont toujours aussi convaincus. D'abord un nouveau point sur l'info à 5h30. Bienvenue.
France Info. William Gay-Costa.
Et justement, à la une, les menaces de Donald Trump sur le Groenland. Des mesures de rétorsion contre les États-Unis ne seraient pas judicieuses, prévient le secrétaire du Trésor américain. C'est ce à quoi les leaders de l'Union réfléchissent pour répondre à ces droits de douane annoncés par Donald Trump tant que le territoire danois ne lui sera pas cédé. Le Parlement européen lui aussi réfléchit. De nombreux eurodéputés appellent à ne pas voter un accord commercial qui avait été conclu l'été dernier avec les États-Unis. Fabien Cazot, un accord qui prévoyait une surtaxe de 15% sur tous les produits européens envoyés aux États-Unis sans contrepartie.
Déjà échaudé par l'accord dit asymétrique conclu l'été dernier, de nombreux eurodéputés crient maintenant au racket pur et simple de la part du président américain. Pour le centriste Pascal Canfin, l'accord commercial est tout simplement périmé.
On ne signe pas un accord commercial au moment où le partenaire en question, c'est-à-dire les États-Unis, sont en train de le remettre en cause. Cet accord est de fait nul et non avenu tant que Trump menace de réécrire les règles du jeu sur lesquelles nous nous étions mis d'accord péniblement au mois d'août dernier.
Non seulement il ne faut pas signer l'accord, abonde la socialiste Chloé Ridel, mais selon elle, il faut aller encore plus loin.
Nous devons réagir avec force pour dire que non, Donald Trump, il n'est pas possible d'acheter des territoires comme on achèterait un nouvel hôtel à New York. Il faut non seulement refuser l'accord, mais il faut aussi activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, c'est le bazooka commercial dont nous disposons depuis 2023, dont on ne s'est jamais servi.
Un bazooka qui permettrait notamment d'exclure les entreprises américaines des marchés publics européens. Certains eurodéputés appellent même à l'adoption de sanctions individuelles contre des proches de Donald Trump ou à des représailles commerciales contre les géants américains du numérique.
Merci Fabien Cazot. Les gérants du bar de Grand Montana ont réuni la somme nécessaire pour payer leur caution. Jacques et Jessica Moretti, couple de France à la tête de ce bar qui a brûlé en Suisse le soir du réveillon. Ils ont réuni 200 000 francs suisses nécessaires chacun. Alors lui est incarcéré depuis 10 jours, elle a été laissée libre. C'est un proche du couple qui reste anonyme qui a accepté de verser cette somme à la justice suisse qui doit désormais valider cette proposition. Un journaliste français a été arrêté en Turquie, Raphaël Boukandoura, correspondant de Courrier International et Ouest France. Il a été interpellé lundi à Istanbul par la police lors d'une manifestation d'un parti pro-kurde. Reporter sans frontières qui révèle cette arrestation réclame sa libération immédiate. Le chemin parlementaire a été long pour le budget. Nous allons y revenir sur France Info dans un instant. Il est encore plus pour les partisans d'une loi fin de vie. Nouvelle étape aujourd'hui. Deux propositions de loi arrivent au Sénat 8 mois après avoir été votées en première lecture à l'Assemblée. Alors si le texte qui vise à renforcer les soins palliatifs fait plutôt consensus comme à l'Assemblée, ce devrait être bien différent pour celui qui doit instaurer une aide à mourir car le Sénat plus à droite s'y oppose, Solène Lehen. En commission il y a 2 semaines d'ailleurs, le texte a été très largement modifié.
À la sortie de l'Assemblée nationale, où elle a été largement approuvée en première lecture, la proposition de loi prévoyait la possibilité pour un malade condamné qui souffre et qui est lucide de se donner la mort ou qu'un médecin ou infirmier le fasse. Mais au Sénat, il n'en est pas question, estime Christine Bonfanti, rapporteuse du texte Les Républicains.
Nous n'acceptons pas ce texte-là. Donner la mort n'est pas, ne sera jamais un souhait.
Là où les députés offrent la possibilité aux malades de se donner la mort jusqu'à quelques mois avant le décès attendu, pour les sénateurs, en commission, ce sera plus restrictif.
Nous avons dit une assistance médicale, attention, et c'est très important, pour les personnes qui sont en phase terminale, c'est-à-dire pour les personnes à qui il reste quelques heures, quelques jours à vivre. Lorsque la personne est en fin de vie, de dire « écoutez, je sais que je vais mourir, dans 2-3 jours, je voudrais arrêter maintenant, donnez-moi quelque chose ».
Il faudra également le jour J la présence d'un officier de police judiciaire.
Pour nous, c'est indispensable.
Après cet examen en séance, le texte repartira pour une deuxième lecture à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement espère son adoption d'ici l'été.
Merci Solène Lehen. Et puis du football ce soir avec le retour de la Ligue des Champions. À suivre à 21h, deux clubs du championnat français. Le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal. Monaco est à Madrid pour affronter le Real. Il est 5h34, merci d'être sur France Info.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Sébastien Lecornu avait promis de le garder dans son tiroir, mais finalement, le Premier ministre est bien obligé de ressortir le 49-3. Il va l'utiliser tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour faire adopter un premier volet du budget de l'État sans vote. Il s'expose donc à une motion de censure. Elles sont d'ores et déjà annoncées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour à tous.
Service politique de France Info, le Premier ministre prend donc le risque de se dédire. Il remet donc en cause sa promesse.
Parce qu'il n'avait pas le choix. Mais Sébastien Lecornu ne va pas monter à la tribune de l'Assemblée le cœur léger. Il avait la mine grave et l'air contrit hier soir après le Conseil des ministres.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de loi de finances.
Amertume et regret, mots choisis pour signifier aux Français que lui prend ses responsabilités quand d'autres n'en sont pas capables. Et tant pis si Sébastien Lecornu revient en arrière. Après la suspension de la réforme des retraites et le vote du budget de la sécurité sociale, les choses se sont gâtées. Plus personne ne se met d'accord. Les discussions sur le budget s'enlisent. Le Premier ministre avait compris depuis Noël qu'il devrait passer en force. Il acte avec le retour du 49-3 à la fois un semi-échec et un semi-succès.
Alors, on le rappelle, Paul, le 49-3 l'expose à des motions de censure. Sébastien Lecornu n'a pas de majorité à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il a vraiment une chance de s'en sortir ?
Oui, parce que le Parti Socialiste ne devrait pas voter les motions de censure du Rassemblement National et de la France Insoumise. Amadoué par la hausse de la prime d'activité, les repas à 1 euro pour les étudiants, des économies supplémentaires sur les agences de l'État. Pour autant, le Premier ministre, écoutez, refuse de crier victoire.
Non, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas d'accord secret, il n'y a pas de discussion et de réunion dans les arrière-boutiques avec qui que ce soit. Donc ce que nous faisons depuis vendredi, c'est mettre devant les Français, pas en cachette, un texte qui nous semble le meilleur pour le pays.
Pas vraiment du goût du patronat en revanche. Colère du président du MEDEF, Patrick Martin, regrette ce matin dans Les Échos que les entreprises soient la variable d'ajustement après la reconduction de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Le Premier ministre répond à ceux qui l'accusent de liquider l'héritage d'Emmanuel Macron.
On a désormais un texte qui me semble solide, qui ne donne pas du tout la part belle à la folie fiscale, comme certains veulent bien le dire, qui épargne 99,9% des entreprises de ce pays. Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser. Et donc je pense qu'on va arrêter de se donner en spectacle devant le monde entier pendant de nombreuses semaines et nous permettre de donner un budget à la nation.
Et justement, quand Sébastien Lecornu va engager la responsabilité de son gouvernement, tout à l'heure, Emmanuel Macron sera lui au Forum économique de Davos. Après s'être impatienté, le président pourra se targuer d'avoir bientôt un budget en bonne et due forme.
Merci beaucoup Paul Barcelone et on suivra donc cet après-midi parlementaire avec vous sur France Info et donc l'enclenchement de cet article 49.3 pour faire adopter le budget de l'État. Alors on l'a entendu, l'espoir de ne pas subir les motions de censure grâce à ces promesses faites aux socialistes qui vont coûter de l'argent. L'objectif toujours affiché pourtant de Sébastien Lecornu, c'est de contenir le budget 2026 à 5% de déficit, 5% de la richesse nationale. Pour cela, il va donc falloir faire des économies ailleurs. Et donc, ça s'annonce difficile, selon Christian de Boissieu, c'est le vice-président du Cercle des économistes.
Ce sera une année compliquée, mais ça, c'est, je veux dire, on s'en doutait déjà depuis 2025. Ça va être compliqué parce que le bouclage de tout ça est à mon avis difficile. Je veux dire, bon, le Premier ministre a dit pas de déficit public supérieur à 5% du PIB en cette année 2026. À mon avis, c'est pas complètement assuré. On va voir comment ça se boucle. Le bouclage me paraît important vis-à-vis de l'intérieur, c'est-à-dire en France, et surtout vis-à-vis de l'extérieur, les investisseurs qui nous financent. On ne peut pas se permettre d'avoir un déficit public qui dérape.
Christian de Boissieu, est-ce que vous avez compris où le gouvernement allait faire soit des économies, soit obtenir des recettes supplémentaires afin de tenir son objectif de déficit à 5% du PIB ?
On va commencer par les économies, il n'y en a quand même pas beaucoup. On va réduire certaines dépenses, mais les collectivités locales vont devoir réduire leur train de vie de 2 à 2,5 milliards pour l'année. Au départ, dans le premier projet de loi de finances, c'était beaucoup plus, c'était le double. Mais pour avoir le Sénat avec soi, ben, et avec lui, le gouvernement fait un effort en quelque sorte en demandant aux collectivités territoriales, aux collectivités locales de ne pas trop s'ajuster. Les ministères régaliens qui ne sont pas touchés, il y a des dotations qui augmentent. D'ailleurs, il faut être cohérent. La loi de programmation militaire, il faut la mettre en œuvre compte tenu du contexte. Sur les autres ministères non régaliens, en dehors de la recherche, il va y avoir un petit ajustement, c'est-à-dire qu'en euros courants, en 2026, leur budget devrait être inférieur à celui de l'année dernière. Bon, c'est un signal, mais ça va pas très loin, des agences, de l'État, sur lesquelles on va demander des efforts. Donc, tout ça, ça veut quand même dire que, à mon avis, l'ajustement va se faire plutôt du côté des recettes que du côté des dépenses. Et ça, on l'avait compris depuis quelques mois. Et la copie finale qui arrive confirme ça. Alors, sur les recettes, au fond, le grand débat, c'est répartir la charge supplémentaire entre les ménages et les entreprises. Clairement, le gouvernement a choisi de plutôt taxer les entreprises, les grandes. C'est-à-dire que la surtaxe sur les grandes entreprises françaises de 2025, qui avait été présentée comme complètement provisoire, est reconduite en 2026 pour les 300 plus grandes entreprises françaises. Vous savez, en France, en matière fiscale, le temporaire a tendance à s'incruster. Ça devient souvent du durable. On va voir, mais en tout cas, cette surtaxe, elle rapporte 8 milliards. Devrait apporter cette année 8 milliards d'euros, c'est-à-dire une grande partie de l'ajustement nécessaire. Bon, voilà, du côté des ménages, pas trop d'ajustement. On indexe le barème de l'impôt sur l'inflation, parenthèse. C'est bon à prendre pour les ménages, pour nous tous qui payons des impôts en tout cas. Mais l'inflation est en basse, 0,8% sur un an en décembre. Je veux dire, ça ne va pas faire une énorme différence. Il y a des promesses qui avaient été faites également aux entreprises de baisser certains impôts de production. C'est annulé, ou plutôt c'est remis à plus tard sans précision sur l'horizon. Voilà, je veux dire, tout ça, chacun y trouve son compte.
Mais est-ce qu'avec tout ce que vous avez dit, le compte est bon ?
À mon avis, pas complètement. Tout ça, ça veut quand même dire que ce budget est un patchwork. Je répète que du côté des dépenses, à mon avis, il n'y a pas de signal fort qui soit donné. Du côté des impôts, on ménage, excusez-moi le mauvais jeu de mots, on ménage les ménages. et c'est plutôt les grandes entreprises qui vont passer à la caisse. Bon, il n'y a pas de scandale, on va réviser un peu le pacte Dutreil, mais ça va permettre d'économiser 200 millions pour l'année. On va mettre en place une taxe sur les holdings, les trésoreries des holdings. Ça, c'est un résidu très, très différent de la taxe Zucman, mais c'était un des sujets qui avait été posé au moment du débat de l'année dernière sur la taxe Zucman. On est très loin avec cette mesure qui n'est d'ailleurs pas précisée, la taxation des trésoreries des holdings. Donc, c'est jouable. De toute façon, je veux dire, dans cet océan de difficultés, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on va quand même, a priori, avoir un budget qui pourrait entrer en vigueur vers le 15 février. Bon, c'est mieux que rien. La loi spéciale qui a été votée pour assurer la continuité de l'État, si ce calendrier est tenu, la loi spéciale aura été utilisée un mois et demi, janvier et la moitié de février. Donc le fait d'avoir enfin un budget, à mon avis, c'est ça la bonne nouvelle. Ce budget est très imparfait, je pense qu'il ne satisfait personne. Bon, et en même temps, chacun peut y trouver son compte sur telle ou telle mesure.
Claire, il faut le dire, il n'y a pas de réforme structurelle. Donc si on continue de cette manière-là à faire dans la dentelle, parce que là, on est vraiment dans des petits calculs, des petites économies par-ci, par-là, mais le déficit...
C'est comptable, on a une approche comptable. Voilà. On n'a pas d'approche économique et stratégique. Et donc, on ne peut pas continuer tous les ans à fonctionner comme ça. Je pense que ça doit être une année de transition. Alors, j'aime pas le concept de transition parce qu'il est tout le temps utilisé. Quand on ne sait pas quoi dire, on parle de transition. Mais il faut que du point de vue budgétaire, cette année-là soit vraiment une année de transition et qu'on rouvre les grands débats. Bah, on le fera à l'occasion de la présidentielle. Mais donc, ça veut dire qu'il faudra le faire aussi à l'occasion du budget 2027.
Le vice-président du Cercle des économistes, Christian de Boissieux, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. C'était il y a un an jour pour jour, Donald Trump revenait à la Maison-Blanche. Ses électeurs sont-ils toujours aussi sûrs de leur choix? Le choix de France Info, justement, arrive après un nouveau tour complet de l'actu.
Info, 5h-6h.
À 6h moins le quart, et c'est avec vous Maureen Suignard, l'info en une minute et à la une, les autorités du Danemark et du Groenland qui proposent d'envoyer une mission de l'OTAN au Groenland.
Puisque Donald Trump menace toujours de s'emparer du territoire danois, le président américain invoque des motifs de sécurité nationale et menace de taxes ceux qui s'opposeraient à cela. Des avions d'un commandement militaire américano-canadien font route vers le Groenland. Il s'agit d'activités prévues de longue date, assure ce commandement. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. La justice cherche à savoir si El Hassen Diarra a subi des violences policières qui ont entraîné sa mort. Ce Mauritanien de 35 ans est décédé en garde à vue la semaine dernière à Paris. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit deux policiers donner deux coups de poing en direction d'un homme plaqué au sol. Près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un navire de pêche près de la Polynésie française. Le navire venait d'Amérique centrale. La drogue était destinée au marché australien. Et puis cela n'est tout simplement jamais arrivé à un Français. Le basketteur de 22 ans, Victor Wembanyama, qui joue à NBA, sera titulaire pour le All-Star Game. Ce match réunit les meilleurs basketteurs du championnat nord-américain. Avant Wembanyama, les Français Tony Parker, Joachim Noah et Rudy Gobert avaient été sélectionnés comme remplaçants seulement.
France Info.
Direction les États-Unis dans le choix de France Info, dirigé à nouveau depuis un an par Donald Trump. Et nous avons rendez-vous dans l'un des États qu'il avait remporté lors de la présidentielle de 2024 avec vous, Olivier Poujade. Bonjour Olivier.
Bonjour William, bonjour à tous.
Vous êtes parti à la rencontre des pro-Trump dans deux circonscriptions au nord d'Atlanta, les comtés de Cobb et de Canton, des territoires ultra-conservateurs et très majoritairement républicains.
On m'a recommandé deux endroits pour avoir plus de chances de trouver des groupes de soutien à Donald Trump, les églises et les pubs, tout comme il y a des tavernes démocrates à Atlanta, réputées pour être des lieux où l'on parle politique. Et bien, dans la petite ville de Marietta, le Johnny McCracken est un établissement qui s'affiche sur les réseaux sociaux comme MAGA ou républicain compatible. J'y ai rendez-vous avec Thérèse.
Est-ce qu'on trouve qu'il devrait faire attention à ce qu'il dit parfois? Évidemment. Mais bon, c'est un homme qui fait ce qu'il dit. Il n'a pas peur.
Teresa n'a que très peu de doutes sur les compétences de Donald Trump. Elle se dit totalement satisfaite et pour une raison bien précise.
Parce qu'il y a de l'action. On avait besoin d'un homme d'affaires aux commandes de ce pays. Les États-Unis avaient besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main pour tout nettoyer. On voit ce qu'il a fait en une année. Imaginez ce qu'il va faire les trois prochaines.
Teresa me conseille d'aller voir une copine à elle. Je passe donc du Johnny McCracken's au Beer Barrel, qui est un petit pub en banlieue de Marietta, sur le bord de la route.
Bienvenue au Beer Barrel.
Ah, mais vous saviez que j'allais venir.
Oui. C'est Marietta. Les nouvelles voyagent vite.
So what's your name?
Brad.
On retrouve la même satisfaction chez Brad. Depuis un an, Donald Trump agit et il agit bien.
Il a fait beaucoup de bien à ce pays, comme ces gros droits de douane qu'il impose à la France. On se faisait avoir depuis toujours. Il met les illégaux dehors définitivement. Et les agents de l'ICE ne font que le travail pour lequel ils sont payés. Ce sont des travailleurs fédéraux comme les employés des postes.
Pourtant, les actions coup de poing contre l'immigration illégale sont de plus en plus critiquées. De nombreux sondages sont sortis récemment montrant qu'une majorité d'Américains, en fait, dénonçaient les méthodes de l'ICE. Le sujet peut devenir un peu sensible aujourd'hui lorsqu'on évoque les manifestations des Américains qui s'opposent à l'ICE.
C'est plus parce qu'ils n'aiment pas Trump. Plus que contre ce que fait l'ICE. Quoi que Trump fasse, il s'oppose.
En fait, vous savez quoi? Ces gens sont payés pour manifester.
Tout d'un coup, un autre client s'impose au milieu de notre conversation. Il s'énerve.
Qui vous êtes et vous faites quoi ici? Vous allez nous critiquer, c'est ça? Allez, ok, casse-toi, t'es pas un mec honnête.
Et sans trop savoir pourquoi, j'en déduis qu'il est l'heure de partir.
Et plus au nord d'Atlanta, Olivier, dans la ville de Kenton, une région ultra-conservatrice, est-ce que l'accueil a été le même ?
Alors absolument pas, un accueil nettement plus courtois, je dirais, un discours très articulé, mais au final presque plus radical chez les paroissiens de l'église anglicane de l'Incarnation. The Gospel of the Lord. Ici aussi, on parle de Minneapolis, du travail des agents de l'immigration et du mouvement de contestation qui se durcit.
À un moment, il faut savoir dire stop. On est obligé d'employer la force. N'importe quel gouvernement finit par se servir de la force.
Brice est pompier, père de deux petits garçons. Chaque semaine, il vient assister à l'office en famille. Pour lui, Donald Trump ne fait que rétablir la justice en expulsant les illégaux.
J'ai des amis qui ont passé plus de 10 ans pour s'installer ici légalement. J'en ai un qui a dépensé 12 000 dollars pour devenir citoyen américain. Et quand on voit ces types qui viennent en passant illégalement, en grillant la priorité de ceux qui font les démarches légalement, on ne peut pas laisser passer ça.
Grand ami de Brice, Austin, est lui aussi très sensible à la loi, l'ordre et la justice.
C'est un Glock 19 et j'ai 50 balles de recharge sur moi, juste au cas où un fou nous rendrait visite.
Il assiste à l'office avec une arme cachée sous sa veste pour, dit-il, protéger le troupeau au cas où. Renvoyer tous les illégaux, peu importe la manière, Austin est pour, mais il est déçu par les villes et les États choisis par Donald Trump pour déployer l'ICE.
J'aimerais qu'ils viennent à Atlanta, qu'ils aillent à Gainesville. Il y a plein d'usines de poulets qui emploient des illégaux là-bas. Je ne comprends pas pourquoi ils ciblent des zones démocrates. Les endroits qui ne s'en plaindraient pas n'ont pas droit aux expulsions pour lesquelles ils ont voté. Et ceux qui sont contre y ont droit.
Et face à ceux qui contestent, Donald Trump va même plus loin. 1500 soldats de l'armée sont aujourd'hui en alerte pour intervenir à tout moment à Minneapolis. Et le ministère de la Justice a ouvert une enquête, lui, contre le maire de la ville, Jacob Frey, contre le gouverneur de l'État, Tim Walz, tous les deux membres du Parti démocrate.
Le choix de France Info en Géorgie aux États-Unis, signé Olivier Poujade. Parmi les principales mesures de cette deuxième présidence Trump, on le rappelle, qui a recommencé il y a un an jour pour jour, on retient les droits de douane imposés à une grande partie du monde, à l'Europe, des droits de douane de retour avec le dossier groenlandais, contre la Chine aussi, présentée comme l'ennemi de Donald Trump, avec des surtaxes exorbitantes annoncées au départ. Le bras de fer commercial a duré près de 10 mois. Les autorités chinoises ont choisi de ne pas céder et Donald Trump a finalement reculé. La Chine Chine, Sébastien Berriot continue de prospérer. Vous l'avez bien vu au marché de Yiwu, c'est au sud de Shanghai, le marché de gros le plus important au monde pour la petite manufacture.
Le choix ici est impressionnant. Le magasin d'usine de Wangjiang propose plusieurs centaines de modèles de chaussons. Une production qui est aujourd'hui sauvée après une grosse période d'incertitude au printemps dernier. Mais la patronne des lieux a dû se battre pour maintenir ses usines et leurs 3000 ouvriers.
Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, tout le monde était sur les nerfs. Étant lui-même un homme d'affaires, il était clair qu'il allait brandir la hache des droits de douane contre la Chine. Les commandes américaines ont diminué, alors j'ai concentré mes efforts sur le développement du marché sud-américain et nos ventes vers l'Amérique du Sud ont commencé à dépasser celles de l'Europe et des États-Unis. Nos produits étaient exportés par conteneurs entiers. Et finalement, grâce à mes efforts incessants pour développer de nouveaux marchés, les affaires sont restées très favorables.
De nouveaux marchés obtenus aussi grâce à l'aide des autorités chinoises qui ont joué un rôle très actif pour faire face aux droits de douane américains. Au troisième étage du marché, dans le secteur de l'électronique, Zhu Haitao nous montre son robot nettoyeur de vitres tout en nous expliquant.
Nos autorités locales ont organisé des visites de plusieurs centaines de personnes venues du Kazakhstan et de Mongolie pour venir faire leurs achats à Yiwu. Tous les frais de voyage et d'hébergement étaient pris en charge. Tout cela a apporté des opportunités commerciales et j'ai pu vendre des produits à certaines de ces personnes.
Après 10 mois de crise commerciale, la patronne des usines de chaussons salue la victoire de la Chine.
Après un an d'observation, je peux dire qu'il est impossible pour les États-Unis de réprimer la Chine, car sans la Chine, les prix de leurs biens de consommation augmenteraient tous. Lorsque sont venues les négociations sino-américaines, nous avons tous applaudi. Trump avait cédé.
La Chine qui ne regrette pas d'avoir résisté à Donald Trump, elle a enregistré en 2025 un excédent commercial record de 1200 milliards de dollars.
France Info reportage à Shanghai, signé Sébastien Berriot, notre correspondant en Chine. Il est 5h54 et c'est l'heure de l'Actu Éco avec vous Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actu Éco en trois titres. Voilà le premier, l'inflation qui repasse sous la barre des 2% en zone euro.
Oui, ralentissement constaté en décembre. L'indice des prix à la consommation s'inscrit donc à plus 1,9%, soit légèrement en dessous de l'objectif de 2% fixé par la Banque Centrale Européenne pour maintenir un bon fonctionnement de l'économie. La révision découle principalement des prix de l'alimentation, du tabac et de l'alcool, dont la hausse a été plus faible que prévu. Alors pour rappel, un repli de l'inflation ne signifie pas une franche baisse des prix, mais un ralentissement de leur hausse, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme moins important.
Oui, rappel important. Deuxième titre, Emmanuel, Renault qui va fabriquer des drones militaires.
Oui, le constructeur automobile français confirme le projet de création d'une filière française pour mettre au point et produire ce type de matériel en partenariat avec l'entreprise aérospatiale Turis Gaillard implantée à Neuilly-sur-Seine. La fabrication de ces drones est envisagée dans 2 usines situées au Mans, dans la Sarthe et Cléon, en Seine-Maritime. L'accord de collaboration est évalué à 1 milliard d'euros sur 10 ans.
La SNCF poursuit ses investissements dans les TGV.
SNCF Voyageurs commande en effet 15 rames supplémentaires au groupe Alstom. Des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe. Montant de ce nouveau contrat, 600 millions d'euros.
On vous retrouve dans une demi-heure, Emmanuel Cuny sur France Info pour le Brief Éco.
Le recours à l'article 49.3 par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour adopter le budget sans vote des députés. Députés exaspèrent les patrons. Plus que la tactique utilisée, les chefs d'entreprise dénoncent une parole politique sans valeur et ils alertent sur l'impact concernant notamment l'investissement.
Merci beaucoup Emmanuel. À 5h56, c'est donc l'heure de la playlist de France Info. Et ce matin, Maureen Suignard, vous nous parlez de ce titre qui suscite autant d'enthousiasme que de questions.
Sorti il y a un mois, ce titre a même été parmi les plus écoutés dans le monde sur la plateforme Spotify début janvier. Hey Où t'es, papa, où t'es, 19 millions d'écoutes rien que sur Spotify, des millions de vues aussi sur YouTube. Énorme succès pour ce titre en Belgique, en France, en Italie, même aux États-Unis. Un titre qui doit a priori résonner dans vos oreilles.
Ah
William,
bah oui.
Il s'agit d'une reprise du Belge Stromae, Papa Outé, sorti il y a plus de 10 ans. Jusqu'ici tout va bien, sauf que cette version dite Afro Soul a une origine un peu obscure. C'est un certain Chill77 qui publie le titre en collaboration avec Mike Eisman, qui est présenté comme un artiste de 25 ans. Le label Unjaps est aussi crédité, lui qui a déjà dévoilé des versions de musique de Rihanna, de Daft Punk ou encore d'Indila, des versions produites grâce à l'intelligence artificielle, mais cela n'est pas précisé et c'est là le problème. De nombreux internautes n'y voient que du feu, s'extasient devant le titre, parfois sans connaître l'original. Et pour ajouter de la confusion à la confusion, un artiste congolais, Arsène Mukendi, a fait un clip avec cette chanson. Il dit qu'il n'a pas su résister à l'envie de lui donner un visage. Pourtant, il n'a rien à voir avec tout cela. Alors Mike Eisman, qui publie donc cette musique, affirme avoir tous les droits pour la diffuser, mais rien ne le prouve. Et la question des droits d'auteur se pose. Ces millions de vues, ça rapporte de l'argent. Il y a aussi une question, une dimension plus éthique, plus personnelle, puisque le titre de Stromae évoque l'absence de son père, victime du génocide au Rwanda. L'intelligence artificielle peut-elle s'emparer de sujets aussi lourds? Stromae n'a pas réagi pour le moment. La meilleure des réponses est sûrement d'honorer l'original face à la copie.
Ça, j'ai reconnu, c'est la vraie.
Exactement,
bravo. On ne l'a fait pas, moi. Merci beaucoup, Maureen Suignard, pour la playlist. C'est l'heure de la météo.
France Info Météo, avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur verissure.fr.
La vraie météo avec Christine Peña et ses nouvelles pluies qui abordent la Bretagne.
Et oui, malheureusement. Alors, c'est assez dégagé d'ailleurs en ce moment, mais c'est vrai que ça va se couvrir, ça va se gâter d'abord sur le Finistère et puis toute la Bretagne cet après-midi sera fortement arrosée avec un vent qui va se lever, vent de secteur sud-sud-ouest qui va souffler vraiment très fort cet après-midi. Nous avons les pluies dans le sud, en revanche, qui vont s'estomper petit à petit. Il pleut encore, hein, ça remonte jusqu'à l'Aveyron. Mais ça va se cantonner vers le Roussillon, l'est de la Corse également, avec des pluies de moins en moins soutenues et de moins en moins nombreuses, surtout de plus en plus localisées. Alors attention toujours au risque d'avalanche sur la montagne corse. Nous avons également le vent, mais qui réduit un petit peu en Méditerranée. Puis globalement, de façon générale, les éclaircies arriveront à gagner un peu de terrain cet après-midi. On se méfie quand même des brouillards, notamment entre le Dijonais et le Lyonnais, qui pourraient rester en place également. Vers le secteur de Nancy où les températures du coup ne grimperont pas. On a encore des gelées, là, moins 1 en ce moment à Nancy. Cet après-midi, plus de 1 degré. Ça fait quand même pas beaucoup. Il fait toujours plus doux en Méditerranée. Cet après-midi, entre 14 et 16 degrés.
Merci Christine Peña. Outé, Jérôme Outé. Ah, il est là. Bonjour Jérôme Chapuis.